On est d'accord? Moi, je suis personnellement venu au monde et j'ai découvert en grandissant qu'un jour, avec la grâce de Dieu, que ce soit le plus tard possible, mais que je devrais quitter cette terre. Moi, je suis venu pour naître, vivre et mourir. Telle est la loi de la nature. Jésus, lui, est venu volontairement pour mourir, pour nous ouvrir le chemin du ciel, en accomplissant par cet acte un acte d'amour qui est l'amour de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit « Dieu est amour ». Alléluia. Et en venant sur la terre des hommes, donc je le disais, Jésus est né pour mourir, mais il a donné sa vie pour que nous soyons bénis. Alors on va essayer de chanter ce chant qui nous dit justement, en parlant de Jésus, non pas de sa naissance, mais de son sacrifice, « Quand j'ai vu tes mains ». Vous connaissez ce chant? Alors si vous le connaissez, vous le chantez avec moi. Et s'il pleut en sortant, ne m'en veuillez pas. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. J'ai vu tes pieds saigner de partout. Quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard si pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Gloire à Dieu. Je trouve que ce chant est magnifique et qu'il est bon de se le remettre en mémoire parce qu'il nous parle là d'un amour insondable. Ça nous parle également, si vous l'avez bien remarqué, du ministère que le Seigneur Jésus est venu accomplir pour tous les hommes au travers les siècles. Et un jour, il reviendra. Alléluia! Ça doit faire plaisir à tous les chrétiens et à tous ceux qui veulent croire en Jésus-Christ. Il reviendra pour prendre ceux qui, un jour, lui auront donné leur vie. Alléluia! Et qui auront ou qui seront restés fidèles. Alléluia! Alors, on va ouvrir la parole de Dieu après ce chant qui nous rappelle tout l'amour du Fils, mais aussi l'amour de Dieu le Père. Et je voudrais voir avec vous un thème, je dirais, tout simple. J'espère que cela ne vous étonnera peut-être pas, je l'espère en tout cas fortement. Le bois salutaire. Alors on va lire un texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, chapitre 10 et verset 37. Actes des Apôtres, chapitre 10 et verset 37. Je pense que vous avez trouvé. Oui, pour ceux qui ont avec eux la Bible ou le Nouveau Testament. Voilà ce que dit l'apôtre. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint de puissance de Nazareth, Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons donc nous arrêter sur cette lecture, mais nous allons nous arrêter plus précisément sur cette parole qui nous est révélée dans le verset 37. Où il est dit ceci, « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, et qui a commencé, comment Dieu a oint d'Esprit Saint de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Et il est dit un peu plus loin, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Ah. Si on n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu ou de la vie de Jésus, on pourrait dire quelle triste fin pour cet homme, surtout que la Bible le déclare juste et innocent. Cet homme a été mis sur la croix, le bois. Je disais tout à l'heure, le bois salutaire. Parce qu'effectivement, quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit depuis l'Ancien Testament que, comme dans le Nouveau Testament, et principalement dans ce texte que nous venons de lire, que le bois a une certaine importance. Je vais vous citer quelques exemples, cela sera simplement plus clair et nous comprendrons ensemble. Lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'Ancien Testament, au temps de Noé, c'est-à-dire au temps du déluge, vous savez que du temps du déluge, on va dire les gens du monde, de ce monde, du temps de Noé, eh bien, était un monde qui était impie, qui était violent, qui était corrompu. Et Dieu, qui a vu que la violence et la méchanceté étaient de plus en plus grandissantes, a pris la décision de détruire la création, c'est-à-dire les êtres humains et également tout ce qui était dans le domaine animal. Dieu a arrêté cela de part vers lui, mais en regardant, je dirais entre guillemets plus précisément, il a vu qu'il y avait là un homme qui était juste et un homme qui ne se corrompait pas, qui ne participait pas aux idées et aux pensées du monde dans lequel il vivait. Et Dieu fit connaître ainsi une décision ou sa décision à cet homme qui s'appelait Noé, et il lui demanda, qu'est-ce qu'il lui demanda? Eh bien, c'est écrit dans Genèse au chapitre 6 et verset 14, « Fais-toi une arche de bois de coffer. Tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Telle était la volonté de Dieu pour Noé, qu'il se fasse une arche pour lui et pour les siens. Et quand on continue la lecture, on s'aperçoit dans Genèse chapitre 7, verset 5, « Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. » Ah, c'est bon de préciser cette chose, parce que cela nous prouve que non seulement Noé était juste, Noé ne participait pas au monde, mais Noé était un homme qui avait obéissance dans tout ce que Dieu lui demandait. Et j'aime ce petit mot entre quatre lettres, tout. Il exécuta tout. Alors quand on pense, là je ne vais pas rentrer dans les détails de l'arche de Noé, mais quand on pense à la construction de cette arche qui a duré plusieurs années et qu'il fallait la faire tout seul, avec sa famille, et qu'il est écrit, il a fait tout, comme Dieu lui demandait, ça part de la petite goupille de bois jusqu'à le mât, ou s'il n'y avait peut-être pas de mât, mais la grandeur du bateau, mettre les poutres, et il faut voir si on pouvait imaginer le travail que cet homme a accompli, les heures qu'il a passées avec sa famille. Ensuite, quand cette arche a été faite, il a fallu encore l'enduire de poids. Il a fallu cloisonner. Mais il y a un travail fou là-dedans. Mais il a quand même écrit, il a tout fait. Et c'est pas écrit. Mais je suppose qu'on pourrait ajouter à côté, il a tout fait sans rien dire. On pourrait aussi ajouter, il a tout fait sans rouspéter. Il a tout fait tranquillement, ce que Dieu lui demandait. Et cela ne suffisait pas, parce qu'en même temps qu'il faisait l'arche, il est dit qu'il est appelé le prédicateur de la justice. C'est qu'en plus, il prenait le temps de parler à ses concitoyens de l'amour de Dieu, de la décision de Dieu à détruire la terre, ce qu'il avait créé. Mais personne ne l'écoutait. Tout le monde rejetait sa parole. Et quand on pense que l'arche, il a été construit sur la terre, même pas dans une rivière, ni dans un fleuve, ni sur un lac. D'ailleurs, ça n'aurait pas dû être sur un lac, ni sur une mer. Impossible, mais il a fait. Mais il a été pris pour un fou. Surtout que lorsqu'on continue la lecture, on s'aperçoit qu'il est écrit qu'il n'était jamais tombé avant le déluge une goutte d'eau du ciel sur la terre. Les plantes étaient arrosées par la rosée du matin et parfois du soir. Il fallait être, aux yeux de ces gens-là, sinoque, et personne ne voulait croire ce qu'il annonçait. Encore du temps, et Dieu va détruire la terre. Mais personne ne le croyait. Mais Noé a fait son arche. Et il fut sauvé, lui et toute sa famille. Maintenant, ce que je voudrais dire est, avec le bois, c'est que, en fait, le bois n'y est pour rien. C'est vrai qu'il a été sauvé, c'est écrit. Il rentra dans l'arche, lui et les siens, avec le couple de chaque animal. Et quand ils furent tous rentrés, Dieu ferma la porte. de l'arche, pour rappeler ce texte. Et c'est quand même terrible parce qu'après 7 jours, la pluie est tombée sur la terre. Pendant ces 7 jours, les gens auraient pu se repentir. Et vous savez que lorsqu'on se repent devant Dieu sincèrement, Dieu est celui qui pardonne. Mais ils ont dû continuer les colibés. Il est rentré avec les siens, il est complètement fou. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vivre là-dedans. Et puis, que des choses ont dû être dites. Mais le 7e jour, la fin du 7e jour, la pluie tomba. Et l'eau s'est élevée, a tout inondé. Le bateau s'est élevé. Et ce n'était pas un petit orage ou gros orage comme nous avons connu ici dans la région, parce que ça a tellement tombé, les eaux des fleuves, des lacs, tout a été surmangé, toutes les eaux se sont élevées à un tel point que le bateau est monté très haut, à un tel point que le bateau a navigué. Et la vie était dans le bateau, et Noé était dans le bateau avec sa famille, la vie était là. Et il est arrivé qu'un jour le bateau est venu sur le mont Ararat. Et que là, la famille a retrouvé la liberté et reconstitué un monde nouveau. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu envers ceux qui croient en lui, envers ceux qui acceptent sa parole, envers ceux qui écoutent sa parole et qui la mettent à exécution dans leur vie. Et à partir du moment où Dieu voit de tel homme, de telle femme, de tel jeune, fidèle à l'écoute, à la mise en pratique de la parole de Dieu, alors il les sauve. Et vous avez peut-être compris pourquoi je vous ai dit que le bois tout à l'heure n'était pour rien. Le bateau a été le moyen pour que Noé et sa famille soient sauvés. Mais en fait, si Noé et sa famille ont été sauvés, c'est par rapport à son écoute à la voix de Dieu, par rapport à son obéissance à la parole de Dieu, par rapport à ce qu'il a tout fait, ce comment Dieu lui demandait de faire. Et quand tout fut fait comme Dieu l'avait demandé, quand il rentra dans l'arche, alors il est bon quand même de souligner que c'est Dieu qui ferma la porte. Oui. Il fut sauvé, non pas par rapport à l'arche, mais par rapport à sa foi, par rapport à son écoute, par rapport à son obéissance. Non seulement lui, mais toute sa famille, car il a été un exemple pour les siens qui l'entouraient. Et ça, c'est extraordinaire. Et je ne peux pas laisser sous silence que lorsque l'on se tourne vers le Seigneur, lorsqu'on accepte le Seigneur, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsque l'on vit la parole de Dieu, alors il nous est dit ceci: tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Parfois, la famille, c'est long à se convertir, mais s'ils ont devant eux un exemple d'homme, de femme, fidèles, alors les membres de la famille, en leur temps, pas à leur temps eux, mais on va dire au temps de Dieu, Dieu est celui qui sauve. Alléluia. Et soyons, permettez-moi cette parenthèse, soyons heureux lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur et l'accepte comme sauveur au moment du départ éternel. Au dernier instant. Au dernier instant, celui qui invoquera le nom du Seigneur d'une manière sincère sera sauvé. C'est pour cela, si quelqu'un prie depuis quelque temps, depuis quelques années, et qui est au milieu de nous pour sa famille, le mari, la femme, les enfants, ne désespérez pas, soyez confiants et soyez un bon exemple. Vivez véritablement la parole de Dieu dans tout ce qu'elle vous dit, et vous serez sauvés. Vous savez, c'est ça la bonté de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Vous savez, du temps de Noé, si les gens s'étaient repentis, eh bien, ils auraient été sauvés parce que le Seigneur les aurait pardonnés. Mais quand ils ont réalisé que le déluge tombait, je n'y étais pas, mais cela peut se penser réellement, la première des choses qu'ils ont dû faire, c'est aller vers l'arche, essayer d'ouvrir la porte. Mais c'était pas possible, il pouvait taper, essayer de faire ce qu'il voulait. C'était pas la porte. Même Noé n'a pas pu avoir la tentation d'ouvrir, ça aurait pu être, d'ouvrir la porte. Il ne pouvait pas. C'était Dieu qui avait fermé la porte. Ce qui veut dire en clair, ceux qui ont tapé sur la porte, c'était trop tard. Et la Bible dit qu'aucun de vous ne paraisse arriver trop tard. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, de la délivrance, du pardon des péchés, de la guérison de l'âme et du corps, aujourd'hui. Je dis aujourd'hui parce que la Bible nous dit que demain ne nous appartient pas. Mais aujourd'hui, c'est le jour du salut, de la bénédiction, de la délivrance. Et c'est vrai aussi que quand on devient enfant de Dieu, car il faut aller au bout des raisonnements et de ce que la Bible nous enseigne aussi, quand le peuple d'Israël, dans un autre exemple de la Bible, a quitté le pays d'Égypte pour aller vers le pays promis, il nous est dit que ce n'a pas été facile. C'est vrai qu'ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Là, je vais passer sur celui-ci d'exemple où Moïse avait à la main un bâton, le bâton de l'Éternel. Et ils ont pu passer la mer Rouge parce que le bâton de l'Éternel avait été, suivant l'ordre de l'Éternel, élevé, direction de la mer Rouge, et la mer s'est fendue en deux. Quel miracle extraordinaire! Le peuple d'Israël a passé à sec et est allé de l'autre côté pour enfin se mettre sur le chemin qui conduit au pays promis. Quelle grâce, quel miracle! Tout le monde a passé, tout le monde était sauvé. Derrière Moïse qui donnait le bâton de l'Éternel. Et puis au bout de 3 jours de marche, vous lirez cela, et c'est cet exemple-là que je voulais souligner, 3 jours de marche, ils arrivèrent à un lieu qui s'appelle Mara. Mara, c'était un oasis, un petit oasis, mais Mara veut dire eau amère. Ce qui veut dire que quand ils sont arrivés là, auprès de cette eau qui était là, ils ont voulu goûter, mais l'eau était amère. Elle était imbuvable, imbuvable. Et là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le peuple d'Israël s'en est pris à Moïse. Et par Moïse, s'en prenait à Dieu. Alors pourquoi nous avoir fait sortir du pays d'Égypte si c'est pour mourir ici, dans le désert? On n'a rien à voir, on a tous soif, on va mourir là, dans le désert. Alors Moïse, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a crié à l'Éternel. Et là, quand on regarde le texte, il nous est dit que le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous ? » Et Moïse cria à l'Éternel, et écoutez bien, « Et l'Éternel lui enseigna un bois. Et il le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. » Quel miracle ! Non ? Alléluia, hein ? Mais entre parenthèses, vous ne trouvez pas que le peuple d'Israël a la mémoire courte? Hein? 3 jours avant, il y a le miracle de la mer Rouge. 3 jours avant, ils avaient dit, avant de passer la mer Rouge, ils avaient dit à quoi ça sert d'avoir quitté l'esclavage si c'est pour mourir là maintenant au bord de la mer Rouge. Jamais content. Hein? Pourtant, quand ils étaient esclaves, ils ont vu Dieu agir au travers des 10 plaies pour qu'ils soient libérés. Oui ou non? Alors ils ont vu les 10 plaies, ils ont vu le passage de la mer Rouge. Et chaque fois qu'il y a une difficulté, ils rouspètent. Ils s'en prennent à Moïse. Ils s'en prennent à Dieu. Et si je vous dis cela, mes frères et sœurs, c'est que, tout simplement, à partir du moment où on accepte de vivre avec Jésus-Christ, à partir du moment où on se consacre à Dieu, à partir du moment où on veut vivre cette même vie de Noé, d'homme juste, qui est à l'écoute de Dieu, qui fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas toujours facile la vie du chrétien. Sincèrement, je peux vous dire que la vie du chrétien, ce n'est pas facile. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des difficultés. Mais il y a une chose vraie, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors ça ne sert à rien, si on est enfant de Dieu, de s'en prendre à Dieu ou de s'en prendre à celui qui dirige le peuple de Dieu. Ça ne sert à rien de s'en prendre à Jésus-Christ. Non, si on est avec Dieu, si on marche avec Dieu, si on s'est repenti, si on a accepté de vivre pour Dieu et Jésus-Christ, soyons fidèles, persévérants et attendons-nous à la gloire de Dieu. Oui ou non? Regardez là, le seul qui a eu confiance encore, c'est Moïse, le serviteur que Dieu avait choisi pour conduire le peuple d'Israël au pays promis. Moïse, lui, n'est pas rentré dans les allégations de ce peuple-là. Lui, il se tourne vers Dieu et il fait connaître le problème à Dieu. Il le fait connaître. Et Dieu va lui répondre. Et il lui répond en disant quoi? On l'a lu. En lui désignant un bois. Prends-le et jette-le dans la mare. Dites donc. Vous avez déjà fait ça, vous? Vous avez déjà goûté l'eau amère? Moi, ça m'est arrivé. J'ai goûté de l'eau de mer qui coulait au robinet. Mais c'est bien ça. Lorsque mon père, qui était gendarme maritime, a été muté en Algérie, il y a quelques années maintenant, bien sûr, il arrivait qu'il y avait des coupures d'eau douce, parce qu'il faisait très chaud, il y avait des manques d'eau, et il remplaçait l'eau douce par l'eau de mer. Alors, pour boire ça, c'était pas évident. Déjà, pour faire la cuisine, il fallait faire vraiment bouillir pour que le goût du sel disparaisse. Pour prendre une douche, je vous dis pas. Mais c'est pas bon, l'eau salée, hein, c'est pas bon. C'est comme l'eau amère, c'est pas bon. Et si on avait dit, elle est amère, je vais prendre un bout de bois, je vais le mettre dedans, ça va devenir de l'eau douce, c'est sûr que ça marche pas. Là, ça a marché parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais ça a marché parce que Moïse n'a pas dit « Mais c'est pas possible. Jeter un bout de bois pour que l'eau devienne douce, c'est pas possible, ça. » Ou alors il aurait pu dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec un bout de bois que je jette dans l'eau? Le peuple va rire de moi. » Vous voyez? On peut se poser des questions à ce niveau-là. Mais Moïse a eu confiance à la parole de Dieu. Tu prends le bois que je te montre, tu le jettes dans l'eau. Il n'a pas cherché à comprendre, hein. Il a fait. Et quand on fait ce que Dieu dit, tout comme Noé, le miracle s'accomplit. Oui ou non? Après, Moïse a dit, buvez! J'aurais voulu voir la tête des Israélites. Il y en a peut-être qui se sont approchés avec méfiance. Pourquoi il nous dit de boire? Allez boire. Peut-être que Moïse a montré l'exemple. C'est pas écrit, c'est un peu d'imaginer. L'eau est douce, venez tous. Et là, ça a été la coupe. Vous voyez? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Et tu verras l'impossible devenir possible. Parce que si vous ne me croyez pas, allez demander à un spécialiste physicien de dire, voilà, il y a de l'eau amère, je jette un bout de bois, est-ce qu'elle va devenir douce? Il va vous regarder, vous dire, l'hôpital psychiatrique, il est là-bas. C'est insensé ce que vous demandez. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Et comme Dieu n'est jamais de reste, il est dit que lorsque Dieu donne, figurez-vous, il donne en abondance. Ça vous fait plaisir, ça? Ah, ça vous fait plaisir. Hein, Seigneur envoie l'abondance. Mais il l'a fait pour le peuple d'Israël, parce qu'une fois qu'ils ont bu, ils se sont désaltérés, les hommes, les animaux, tout le monde a été content, ils ont continué leur marche. Et Dieu les a conduits où? Allez, je vous pose la question. Dieu les a conduits où? Ah ben ça c'est sûr. Mais il les a conduits à un petit oasis magnifique. Ça s'appelait Élim. Ah ouais, Élim. Dieu les a conduits à Élim pour leur faire encore du bien, plus que des eaux de Marah, les a conduits. Donc, ce qui était amertume est devenu douceur, et la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, les a conduits à Élim. Et là, quand ils sont arrivés à ça, c'était mieux, hein, c'était pour faire un joli camping, là. Il y avait 12 sources d'eau. 12 sources d'eau. Dieu est bon. Combien il y a de tribus? 12, une source pour chacune. Pas de dispute,
Vous avez chacun la vôtre.
Ouais, mais ça suffit pas, il y a le soleil. Mais oui, ça suffit. Il y a 70 palmiers pour vous abriter. Magnifique. Dieu est bon. Et nous bénit au-delà de ce qu'on peut espérer et demander. Mais j'oserais dire, arrêtons de rouspéter. Arrêtons d'être des gens insatisfaits. Que l'on soit déçu par le monde, c'est, je dirais presque aujourd'hui, c'est normal, puisque le monde part à la dérive. Mais nous ne serons jamais déçus par Dieu. Et nous devons, même si nous constatons que ce monde part à la dérive et que nous n'arrivons plus à le comprendre, il nous est quand même demandé de prier pour les âmes perdues, de prier pour le monde, afin qu'il soit sauvé, tout comme on a été sauvé. Jésus est venu pour sauver les gens du monde. Alléluia. Il appelle tous les pécheurs à lui, afin qu'ils soient transformés. Et j'aime cette phrase qui dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Nous étions avant des gens de ces nations-là, nous étions nous aussi des pécheurs. Mais voilà, nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru à la parole de Dieu, et l'œuvre de Dieu s'est faite en nous, l'Esprit Saint est en nous, et nous aide à vivre en tant que chrétiens et enfants de Dieu. Et les choses pénibles deviennent faciles à être surmontées. Même si parfois, il faut verser des larmes. Mais Dieu est un divin consolateur. Alléluia. Soyons de ceux qui ne rouspètent pas, mais soyons de ceux qui font confiance au Seigneur Jésus, qui font confiance à l'amour de Dieu. Dieu a un plan pour vous. Dieu avait déjà préparé les sources d'Élim pour les enfants d'Israël. Et il est écrit, ils étaient là pour les éprouver. Oui. Il est bon parfois d'être éprouvé pour connaître et apprécier l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous. Il ne nous abandonnera jamais, dit les Saintes Écritures. Je viens de parler de consolation. Ça sera mon... Avant de parler, là je vais parler ça, d'un homme qui a fait une expérience extraordinaire. Il s'agit de David. David. David, vous savez, il a écrit le psaume 23. Et dans le psaume 23, il est parlé de quoi? Il est quand même parlé d'un bâton, non? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton fait penser au bâton du berger. Et je voudrais vous dire aujourd'hui que nous avons, nous aussi, le bâton du berger. Et qu'il a même un nom. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Et quand justement David, ce roi, a eu dans sa vie, dans son règne, des problèmes, des difficultés, il a eu avec ses ennemis, il en a eu avec sa famille. Il y a eu des problèmes de tous les côtés, mais il a écrit dans ce psaume 23, je vais vous lire au cas où vous ne l'aurez pas encore tout à fait imprimé. Dans Paroles vivantes, je vais vous le dire. « Quand je devrais traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras près de moi. » Ton bâton me guidera, ta houlette de berger me rassurera. Et d'un seul coup, dans d'autres traductions, quand on voit ce verset, il nous est dit que ta houlette de berger me rassurera ou me réconfortera, me protégera, me consolera. Et nous comprenons alors pourquoi que dans toutes ces difficultés qu'il a connues, dans ces combats qu'il a pu avoir, il peut s'exprimer ainsi, vous connaissez tous ce verset et ces paroles de David, psaume 4, verset 9, paroles de vie. « En paix je me couche et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Oh, c'est pas extraordinaire de lire de telles phrases. Alors tout à l'heure, nous avons cité des paroles de Dieu qui est venu au secours de Noé qui est venu au secours de son peuple. Mais là, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est un homme qui a expérimenté la grâce de Dieu. C'est un homme qui avait ses relations avec Dieu. Oh, ça n'a pas été toujours facile. Mais il se confiait, relisez les psaumes et les psaumes de David, il se confiait en l'Éternel. Jamais il n'a été déçu. Comment dire quand on est dans des difficultés, je ne suis pas déçu. Mais il pouvait le dire parce qu'il avait confiance en Dieu. As-tu confiance en Dieu ? Crois-tu à la puissance de Dieu ? Crois-tu à la consolation de Dieu ? Crois-tu à la guérison de Dieu pour ton âme, pour ton corps ? Si tu crois, tu n'as rien à craindre. Je ne crains rien parce que tu es avec moi. Alléluia. Et à partir du moment où j'ai conscience et confiance en Dieu, j'ai conscience que Dieu est en moi et j'ai confiance en Dieu, alors je peux dire comme David, en paix je me couche. Amen. Ce n'est pas que je veux faire le curieux. Hein. Est-ce que vous vous couchez en paix ? L'enfant de Dieu devrait dire oui. Je me couche, et j'aime bien cette traduction parce qu'il dit « je me couche et aussitôt je dors ». Moi, je vais vous dire quelque chose. Merci Seigneur, c'est vrai. Non, pas vous ? Ouais. Tu te couches, pouf ! Ça y est, tu es au rêve. Tu vois que le Seigneur bénit. Alléluia. C'est vrai qu'on peut avoir de temps en temps des petites pensées qui viennent, mais on dit « Seigneur, donne-moi ta paix ». Et pouf ! On dort jusqu'au matin, tranquille. Et quand on se lève, on chante des cantiques. Peut-être pas toujours, mais oui. Et même dans la nuit, on a des relations avec Dieu. Enfin, je ne sais pas si vous avez fait des expériences. On s'aperçoit d'un seul coup qu'on parle à Dieu. Eh oui, c'est la relation avec Dieu. 24 heures sur 24, le Seigneur veille sur nous. On est dans la paix de Dieu. Amen. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus a dit, ce divin berger, sur qui nous devons fixer nos regards. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, mais à ceux qui veulent l'entendre, « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne la paix de Dieu. Soyez en paix. Vivez en paix dans la présence de Dieu. » Bon, je vais faire peut-être une relation qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je dirais, n'attendez pas d'être en terre pour connaître la paix, parce que, vous savez, des fois sur les tombes, on voit écrit « Ici, repose en paix ». S'il faut attendre de mourir pour avoir la paix, alors ça, c'est triste. Hein. La paix, le Seigneur veut vous la donner cet après-midi. La joie, il veut vous le donner après-midi. La guérison de vos cœurs, il veut vous la donner après-midi, du corps, du cœur, de l'âme. Il est là pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Il ne veut pas vous décevoir, il veut répondre à votre foi. Il veut vous bénir au-delà de ce que vous pouvez demander et espérer. Il vous suffit de croire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je termine en vous disant qu'il y a quand même un autre bois qu'il faut quand même souligner. C'est le bois de la croix. Oui ? Ou non. Vous savez que le bois de la croix, ça n'a pas été un moyen de réjouissance. Pour Jésus, ça a été un moyen de supplice. Mourir sur la croix, sur ce bois, on l'a lu tout à l'heure, il a été pendu au bois. Mourir sur la croix, ça a été quelque chose de difficile. Et s'il est vrai qu'il a perdu beaucoup de sang au travers de toutes les meurtrissures, il est aussi dit, et certains ont dit qu'il avait été aussi, il était aussi mort par asphyxie parce que son poids pesait sur le poumon, il avait des difficultés à respirer. Il a souffert physiquement, mais il était dans la paix parce qu'il savait qu'il accomplissait toute la volonté de Dieu. Ne dira-t-il pas dans ses dernières paroles, tout est accompli. J'ai fait, ô Dieu, ta volonté. Et c'est parce que Jésus a accepté de mourir sur le bois de la croix qu'aujourd'hui il peut nous bénir les uns et les autres. Et j'aime cette parole de Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Jésus, en montant sur la croix, il nous est dit dans le prophète Ésaïe que c'est au travers de ses meurtrissures que les malades sont guéris. Mais c'est au travers de son sang versé qu'il est celui qui pardonne tous nos péchés. Encore faut-il se reconnaître pécheur. Encore faut-il se reconnaître avoir désobéi à la parole de Dieu. Mais le Seigneur n'est pas là cet après-midi en juge, il est là en sauveur. Il a donné sa vie pour vous sauver, alléluia, pour vous sauver de ceux que le monde va connaître lorsqu'il reviendra. Le Seigneur veut vous sauver de l'enfer. Il veut vous donner une place dans le ciel. Alléluia. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui lui sont restés fidèles, il a dit, je vais vous préparer une place, et là où je serai, vous y serez aussi, et je reviendrai vous chercher. Alléluia. Quelle merveilleuse espérance pour ceux qui croient, pour ceux qui vivent avec Jésus, pour ceux qui sont obéissants, pour ceux qui s'attendent à lui, même dans les grandes difficultés, parmi les exemples qu'on a cités, et il y en aurait d'autres, où nous voyons la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, qui n'a jamais abandonné personne, mais qui est toujours venu au courant des faibles, des malades, des pécheurs. À celui qui se reconnaissait pécheur, quel qu'il soit, car le Seigneur Jésus ne fait pas de différence entre le riche et le pauvre, car tous ont besoin de son pardon et de son salut. Aujourd'hui, il est là. Et ma question, c'est qu'allez-vous faire de Jésus ? De ce Jésus qui n'a pas été vaincu à la croix, il a été le vainqueur. Et 3 jours après, il est ressuscité. Par la volonté de Dieu, il ressuscite. 40 jours plus tard, il rentre dans le ciel de gloire. Il est assis à la droite de Dieu et il prie pour vous, pour que vous le receviez dans votre cœur, mais pour que vous soyez bénis dans votre vie d'enfant de Dieu. Il prie pour vous. Il intercède pour vous. Il est votre avocat auprès de Dieu. Lorsqu'il y a des erreurs qui se glissent dans nos vies, il est notre avocat. Non pas de celui qui vous enfonce, mais de celui qui vous défend. Il plaide de votre cause, afin que le Seigneur d'amour, le Père éternel, vous accorde son plein pardon. Et n'est-il pas écrit que, en fait, le Seigneur ne se lasse pas de pardonner lorsqu'on est sincère dans notre repentir. Alléluia. Alors que Dieu fasse qu'aujourd'hui, vous et moi, nous faisions confiance au Seigneur. Le bois de la croix n'y est pour rien. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui mettent des croix un peu partout. Mais ce qui compte, ce n'est pas le bois qui compte. Ce qui compte, c'est celui qui est mort sur la croix. Jésus n'a pas dit « croyez en la croix, croyez au bois de la croix ». Il a dit « croyez en moi et croyez en Dieu ». C'est les paroles de Jésus. Le bois, c'est rien. Je vous dis, pour Jésus, ça a été un supplice. Le diable croyait avoir fini avec Jésus là, sur la croix. Mais non, Jésus est ressuscité. Et celui qui a été vaincu, c'est le diable. Alléluia, on l'a lu tout à l'heure hein, dans les versets. Il a été vaincu, le diable. À jamais il est vaincu. Il ne gagnera jamais la victoire. Par contre, il essaiera de nous nuire, de vous nuire, de vous empêcher de croire, de vous attirer loin de la vérité. Mais si aujourd'hui tu crois de tout ton cœur, le Seigneur te gardera. Te bénira, te protégera de toutes les actions du diable, car il est le vainqueur. Le diable a été vaincu à la croix. Alléluia. Et ceux qui croient seront sauvés pour l'éternité. Ceux qui restent fidèles sont sauvés pour l'éternité. Et nous pouvons dire alors, et je terminerai par cela, un jour, mes yeux le verront, et pas ceux d'un autre. Mes yeux le verront. Que le nom du Seigneur soit béni. Et soyez réconciliés avec Dieu pour votre salut éternel et pour recevoir de sa part toute grâce, tout don parfait, toute bénédiction qu'il a en réserve pour vous, qu'il a mis de côté pour que vous soyez pleinement bénis et heureux dans sa pensée et dans sa volonté. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Et tu sais trouver le chemin de nos cœurs. Tu sais